Radio Okapi, regarde sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regarde sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir des 21h et samedi à partir des 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Nikez Kibelbel Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les Rébellions Rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Bonjour Nikez Kibelbel.
Bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
En ligne, Adrien Zawadi, il est président honoraire de la société civile du Sud Kivu. Bonjour Adrien Zawadi.
Bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs et à tous les débatteurs dans notre émission.
Et aussi en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde, elle est chef du service Afrique. Bonjour Madame Anna Sylvestre.
Bonjour Guy et bonjour à tous.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regards sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Nikez Kibelbel Oka. Il est journaliste et éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les Rébellions Rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Adrien Zawadi, il est président honoraire de la société civile du Sud Kivu. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Sylvestre, elle est journaliste au journal Le Monde. Elle est chef du service Afrique. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir lutte contre l'épidémie à virus d'Ebola en RDC, crise sécuritaire au Kivu avec en arrière-plan la non-application des protocoles convenus en Suisse dans le cadre du processus de Doha, et enfin, controverse autour de la réforme constitutionnelle en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la tenue de la 11e édition d'Expo Béton RDC à Kalemie. En effet, la ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika, accueille depuis mercredi 27 mai 2026 la 11e édition d'Expo Béton RDC, le plus grand salon professionnel dédié à la construction, aux infrastructures et aux mines. Jusqu'à ce samedi 30 mai, décideurs gouvernementaux, experts et investisseurs se réunissent autour d'un thème stratégique, Kalemie, capitale du lithium et carrefour stratégique au cœur des corridors africains. L'enjeu est détail. Connecter les provinces au grand réseau des transports du continent et attirer des investissements majeurs. À cette occasion, Samalou Kondé, président du Sénat et représentant les chefs de l'État à la cérémonie, a salué les efforts fournis par Expo Béton pour interpeller les différents acteurs à s'engager dans une dynamique de développement durable et planifier des infrastructures dans le respect d'une urbanisation responsable et qui tient compte de l'environnement. Kalemie est à la croisée des chemins de cette dynamique de leur développement au regard de diverses ressources minières, notamment le lithium, minerai stratégique du moment, a-t-il poursuivi. Pour lui, la province du Tanganyika offre des atouts formidables pour impulser la réalisation des infrastructures dans cette équation alliée avec l'exploitation des ressources minières. Nikez Kibelbel Oka, connecter les provinces au grand réseau des transports du continent et attirer des investissements majeurs, comment vous réagissez à cet enjeu de cette 11e édition d'Expo Béton organisée à Kalemie dans les Tanganyika?
Oui, merci beaucoup. La première des choses qui est normale, c'est de féliciter les initiateurs, de les encourager à aller de l'avant, parce qu'au fait... Le grand défi de la République démocratique du Congo, ce sont les infrastructures. Et donc, si déjà les gens réfléchissent sur ça, il faut encourager. Parce que, à l'époque coloniale, jusqu'aux années 70, nous avions des infrastructures qui permettaient effectivement de relier les provinces. Avec la petite voiture VOE, on pouvait faire plus de 200 km. Nous qui avons vécu à Léverville, les cadres roulaient à bord des VOE et c'était des routes non asphaltées.
On pouvait quitter d'une province à une autre?
D'une province à une autre, d'une région à une autre, sans problème, à bord de sa petite VOE. Alors, d'ailleurs, on l'appelait Kototo, c'est-à-dire le crapaud. Vous voyez un peu la forme. Donc, c'est des initiatives à encourager, mais comme nous disons, ce que nous attendons, ce sont les résultats. Bien sûr, les résultats, ce n'est pas en un jour, et comme le président du Sénat l'a souligné, la RDC a besoin des infrastructures pour l'interconnexion, d'abord au niveau interne, et puis peut-être au niveau régional. Et les corridors de l'Obito, qui est maintenant pratiquement l'un des grands enjeux aujourd'hui, a besoin effectivement de cette interconnexion des infrastructures pour que les produits qui viennent de l'intérieur arrivent effectivement sur ces corridors et ça puisse nous permettre l'exportation.
Merci Adrien Zawadi, nous sommes à la 11e édition et à l'issue de chaque édition, c'est une batterie de recommandations qui sont formulées pour le développement de nos villes en RDC. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces recommandations restent souvent lettres mortes? Vous avez suivi Nicolas Kibelbel qui estime que ce qui importe, c'est les résultats.
Effectivement, Guy, il faut reconnaître que si on en suivait, on mettait en pratique les recommandations que nous avons formulées dans plusieurs activités du genre, les pays seraient très avancés. Mais il se fait qu'il y a des problèmes, des défis de volonté politique et il y a aussi des défis de moyens. Les moyens de sa politique et la politique de ses moyens. Donc tout ça, c'est ça qui fait que certaines recommandations n'ont pas été jusqu'à aujourd'hui appliquées. Mais je voudrais rajouter par rapport à ce que Nikes a dit, que en fait, on parle de l'intégration régionale. Mais comment est-ce possible qu'on va faire une intégration régionale si on n'a pas une intégration nationale? Vous savez que nos entités ne sont pas interconnectées. Et donc, une telle activité, c'est très très important, pourvu qu'on puisse appliquer les recommandations, ça n'est pas dans les tiroirs. Deuxièmement, je pense que aujourd'hui, la guerre des métaux là est une réalité inévitable et même mondiale. Et chaque pays, comme la RDC, devrait se positionner pour ne pas être victime de cette guerre, mais être un acteur dans cette guerre. Et donc, mettre en avant les lithiums qu'on retrouve dans les Tanganyika, c'est de bons enjeux. Parce que la RDC a toujours été considérée comme un réservoir mondial de grandes puissances qui ont été à Berlin. Mais nous devons changer cette perception et montrer une nouvelle perception de nous-mêmes et un nouveau paradigme dans l'exploitation de ces richesses. Et donc c'était un enjeu très important, c'est une grande opportunité, même pour la ville de Tanganyika qui est une province en construction. Et c'est très important qu'elle puisse se mettre sur l'orbite pour attirer plus d'investissements et pour sa modernisation et sa construction.
Merci beaucoup, Madame Anna Sylvestre. Non seulement les idées ne manquent pas parce qu'il y a toutes ces réflexions produites par les décideurs gouvernementaux, les experts, les investisseurs, mais aussi ces idées rencontrent un environnement propice au développement, la présence des ressources naturelles. Et pour les cas du Tanganyika, on cite le lithium. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, Madame Anna Sylvestre?
Mais ça m'inspire des choses, je crois que on a déjà dit, notamment chez vous, c'est-à-dire qu'il y a d'importantes ressources, d'importantes richesses et de très grandes opportunités. L'important, c'est d'une part qu'elles soient exploitées et ensuite qu'elles soient exploitées à bon escient, c'est-à-dire peut-être pouvons-nous espérer pour le bien incliné aussi et des populations et à chacune des étapes, parfois les choses ne sont pas faites correctement ou en tout cas pas dans le but d'un bien collectif. Donc voilà, c'est très bien que des décideurs se retrouvent, que des idées ou des solutions émergent. Encore faut-il les mettre en œuvre et ensuite il y a la question des modalités de cette mise en œuvre qui souvent pêche.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Nakei Abidjan du docteur Nico Kassanda avec sa guitare hawaïenne. On se retrouve juste après. Voilà, c'était le docteur de la guitare Nico Kassanda Wamikalai dans Naké Abidjan, dans l'orchestre africain Fiesta Soukissa. On revient à l'actualité cette semaine. Le gouvernement reste déterminé pour la prise en charge de tous les malades d'Ebola qui sont sous traitement dans toutes les zones affectées par cette 17e épidémie d'Ebola. C'est le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, qui l'a dit jeudi soir à Bounia lors d'un briefing de presse qu'il a co-animé avec son homologue de la communication et des médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Le ministre Kamba a également dénoncé ceux qui propagent des fausses rumeurs sur la maladie à travers les réseaux sociaux, ce qui selon lui contribue à la circulation de l'épidémie dans la communauté. Par ailleurs, la mobilisation internationale s'accélère et les États-Unis mettent encore une fois la main à la poche, 80 millions de dollars. C'est le montant que les pays de l'Oncle Sam proposent comme soutien à la RDC et à l'Ouganda. Objectif, contenir l'épidémie à sa source, protéger les populations et éviter toute propagation au-delà des frontières. Cette nouvelle enveloppe porte déjà l'aide bilatérale à plus de 112 millions de dollars américains en moins de 2 semaines. Enfin, les États-Unis annoncent un appui plus large de 300 millions de dollars via les fonds de l'OCHA pour répondre aux besoins humanitaires dans l'ensemble de la région touchée. Madame Anna Sylvestre, vous êtes journaliste au journal Le Monde, vous êtes chef du service Afrique. Vous avez souhaité nous parler justement de la lutte contre cette 17e épidémie à virus Ebola en RDC. On vous écoute.
Oui, il me semble que c'est une situation extrêmement préoccupante, comme l'a dit d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui considère qu'on est dans une situation sanitaire d'urgence, extrêmement préoccupante à cause de l'endroit où cette maladie s'est déclarée, c'est-à-dire une zone où sévissent de nombreux groupes armés, où l'autorité de l'État n'est pas établie de façon claire, en tout cas sur tout le territoire. Et elle a été prise en plus avec retard. Face à cette catastrophe sanitaire, et même si la RDC est sans doute un des pays au monde les mieux préparés, les mieux armés face à ce virus qu'elle connaît et donc qu'elle sait comment réagir, ce que je trouve frappant, c'est la difficulté de la réponse due notamment, vous parliez Guy des États-Unis, mais due notamment aux baisses des financements d'un certain nombre d'organisations internationales. Et cela, c'est quelque chose que nous avions d'une certaine façon vu venir. C'est-à-dire que depuis plus d'un an et demi, les États-Unis, avec Donald Trump qui a coupé l'agence américaine qui s'appelle USAID, l'agence américaine pour l'aide au développement, mais également les pays européens, l'Union européenne, la France notamment, tous ont coupé ou bien baissé leurs aides au secteur de la santé, leurs aides aux pays, mais aussi concernant les États-Unis, leur participation à des grandes organisations comme l'Organisation mondiale de la santé qui se retrouve là en première ligne. Et je crois que dans la réponse à cette épidémie, qui malheureusement a déjà fait plusieurs dizaines de victimes et qui risque d'en faire encore, eh bien on se rend compte que ces coupes-là, ces grandes déclarations ont en fait un impact réel sur le terrain, que du coup il devient plus difficile de réagir et d'aider les populations face à ces drames sanitaires. Et j'ose espérer que cela pourra peut-être mener certains États à y réfléchir et peut-être avoir une vraie réflexion avant de poursuivre ces coupes budgétaires importantes.
Oui, et comment vous interprétez cette mobilisation de la communauté internationale qui, d'une part, ferme ses frontières, n'est-ce pas, aux personnes en provenance de la RDC, et d'autre part, elle n'hésite pas à mettre la main à la poche pour combattre cette épidémie?
Moi, je crois que c'est le même mouvement, en fait. C'est pas paradoxal ce que vous dites là, Guy. En réalité, la communauté internationale, face à cette épidémie, elle est inquiète. Et elle est inquiète, je l'espère, pour les populations, notamment de l'Ipourie, qui sont touchées. Mais elle est inquiète peut-être en premier lieu pour elle-même. En tout cas, quand on pense aux États-Unis, peut-être que le gouvernement américain est d'abord inquiet pour les Américains. Donc fermer les frontières, a priori, empêche les gens de circuler, et on sait que c'est la circulation des gens qui propage le virus, qui fait que, voilà, ça n'est pas circonscrit à une région, mais ça peut aller, mais c'est le cas aussi en RDC, hein, ça pourrait venir jusqu'à d'autres grandes villes, d'autres régions, etc., puis d'autres pays. Donc le but, c'est d'abord de circonscrire, d'où certains pays qui ferment leurs frontières, et cela, je tiens à le signaler, malgré les recommandations de l'OMS qui, par ailleurs, s'inquiète hein, que les fermetures de frontières puissent affaiblir économiquement l'État. Mais voilà, ils ferment les frontières pour se protéger, mais l'autre façon de se protéger, c'est évidemment de combattre l'épidémie. Et donc pour cela, il faut de l'argent, il faut des médicaments, il faut du matériel et il faut des soignants.
Merci. Nikes Kibelbel Oka, vous êtes journaliste et éditeur du journal Les Coulisses. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Malgré cette mobilisation des acteurs tant nationaux qu'internationaux, les virus ne fait que circuler et ils circulent à une vitesse inquiétante. Comment vous comprenez cette évolution, M. Nikes Kibelbel Oka?
Oui, merci Guy. Mais le problème d'une épidémie, d'abord l'épidémie, généralement, on ne l'annonce pas. Elle se fait remarquer en retard, parce qu'elle se fait remarquer à travers des cas. Et celle-ci est née dans une zone aurifère, où il y a beaucoup d'orpailleurs, surtout des orpailleurs artisanaux, ainsi de suite. Mais le problème aussi d'une épidémie, c'est la mobilité, le mouvement des populations. Et donc, ce qui est le plus important lors d'une épidémie, on l'a vu avec la Covid, lors d'une épidémie, ce qui est plus important, c'est les mesures à prendre. On ne peut pas blâmer un pays parce qu'il a, il y a une épidémie qui a surgi chez lui, mais ce sont les mesures à prendre. Et la RDC est quand même mieux outillée dans ce genre d'épidémie, notamment pour Ebola, l'épidémie à virus Ebola. On a un personnel qu'il faut, c'est vrai, il faut maintenant des moyens, il faut une éducation, et notamment pour ceux qui se déplacent, il faut une éducation. Et bon, pour des pays qui ferment leurs frontières, il faut les condamner, parce qu'on ne peut pas, prenons le cas du Rwanda, il ferme la frontière, mais il fait passer les marchandises. On ne peut pas fermer la frontière pour les populations, et surtout qu'on agresse ces populations, et on fait passer uniquement les marchandises. Ça, c'est anormal. Ce sont des populations qui cohabitent, il faut plutôt lutter contre la propagation, et fermer les frontières n'est pas vraiment une solution. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'OMS a condamné cette attitude-là. On peut prendre toutes les dispositions possibles, mais le vrai remède réside en ce que faut lutter d'abord par l'information, la communication, qu'est-ce qu'il faut faire, les mesures à prendre. Les premières mesures, comme l'ont annoncé les ministres de la Santé et de la Communication, c'est d'abord les lavages des mains. Et je pense que la communication, l'information, la sensibilisation se passent parmi les premières mesures qui peuvent effectivement freiner l'évolution de l'épidémie.
Merci Adrien Zawadi, vous êtes président honoraire de la société civile du Sud Kivu. Au vu de la manière dont la riposte contre cette épidémie est menée sur le terrain, peut-on dire que la RDC a tiré les leçons des 16 précédentes épidémies à virus d'Ebola qu'elle a connues depuis 1976?
Oui Guy, je pense que nous devons faire confiance au génie congolais dans ce genre de situation. Mais il faut aussi se rappeler que le contexte est un peu différent. Nous avons la partie de l'Est qui est occupée par la rébellion, mais qui est concernée aussi par l'expansion de cette épidémie. Et donc, ça va être très difficile d'évaluer l'efficacité et l'efficience des interventions du Congo par rapport à ça. Et la question peut être vue sous un autre angle. C'est-à-dire que comment on va gérer cette épidémie dans les zones occupées? Au Nord Kivu, il y a déjà eu des cas. Goma, à Bukavu, on a annoncé des cas. Comment on va gérer ces cas-là? Comment le gouvernement va gérer ces cas-là? Dès lors que déjà des questions humanitaires liées aux guerres sont toujours de vrais problèmes qui se posent dans les zones sous occupation et même qui se posent au gouvernement congolais. Comment ça va se passer? Et vous savez que les rébellions n'ont pas d'expérience dans la gestion des épidémies. Et donc c'est très compliqué. Et pour nous, les gens qui sont dans les zones occupées, nous pensons que c'est vraiment, c'est pas comment je vais le qualifier, mais c'est une double punition que nous subissons, quoi. Parce que on ne voit pas comment est-ce que la rébellion va gérer cette histoire-là, que déjà les questions humanitaires ne sont pas réglées depuis que la guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, je dis, c'est très compliqué d'évaluer. Et l'autre question, c'est la politisation de la riposte. J'ai vu que entre le gouvernement et la rébellion, ils commencent à s'étirer dessus. Et pendant ce temps-là, les victimes, elles deviennent-elles? Donc, il faut une prise de conscience et je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais voilà ce que je peux dire à ce niveau.
Oui, justement, vous qui êtes président honoraire, n'est-ce pas, de la société civile du Sud Kivu, comment vivent les populations au nord et au sud du Kivu? Déjà, il y avait des problèmes, comme vous le dites, humanitaires, mais là, on vient maintenant de fermer les frontières. Comment vivent ces populations depuis que l'on a pris la mesure de fermer les différentes frontières?
C'est très compliqué, Nikes l'a bien dit. Donc, on ferme les frontières pour les humains, mais les marchandises, ils passent. Hein. Les opérateurs économiques rwandais, ils amènent leurs marchandises, leurs conteneurs, ils vendent et ils rentrent. Mais pendant ce temps-là, les populations ne peuvent pas aller s'approvisionner de l'autre côté. Mais ça, ce sont les bas peuples de deux pays qui vont souffrir. Bon, on a l'expérience de la COVID. Pendant la COVID, on avait fermé et les uns et les autres se sont débrouillés chez eux. Mais alors, là, à ce moment-là, la frontière était totalement fermée. Mais ici, la frontière n'est pas fermée pour les marchandises qui viennent de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment injuste. Alors, et l'autre question, c'est que le niveau de conscience n'a pas encore atteint le niveau de la peur, le niveau de la conscience populaire. Et donc, je crois qu'il y a encore un travail de conscientisation. Parce qu'il y en a qui confondent, comme disait Nikes, qui confondent Ebola à la COVID et qui pensent mettre seulement les cache-nez comme mesure de sécurité. Non, il faut multiplier la sensibilisation.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le lundi 25 mai, c'était la date anniversaire de la disparition de Claude Nsumbu Makola, dit Lengi Lenga Yalengos, ce célèbre artiste et musicien, chanteur et auteur-compositeur qui a évolué pendant longtemps dans l'orchestre Zaiko Langa Langa, dont il était l'une des figures emblématiques. Yalengos est mort le 25 mai 1998 à Kinshasa, à l'âge de 44 ans. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé SCC et on revient juste après.
SCC. Poli, poli, kota, kota, panaka, tazara, katele, lamba, koma, bako, seyo. Tabo, mitu, naka, olinga, para, sonya, ibiza, poba, kobara, nani, namo, kili, aseo. Tata, neo, elo, base, meki, babo, kisa, mata, neo, lobi, karaba, koba, koba, zao.
Ese es el canavío,
Revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la tenue de la 11e édition d'Expo Béton RDC Academy. Nous avons également analysé la lutte contre la 17e épidémie à virus d'Ebola en RDC. Participe à cette émission Nikes Ibel-Bel-Oka, il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Adrien Zawadi, il est président honoraire de la société civile du site Kivu. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Silvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. Des drones armés ont visé les installations aéroportuaires de l'aéroport international de Bangoka, Kisangani, dans la province de la Tshopo, en début de soirée de dimanche 24 mai, avant d'être neutralisés en plein vol par les dispositifs de défense des FRDC. Cette intervention a permis d'éviter des conséquences potentiellement dramatiques, même si les circonstances exactes de cette attaque restent encore à élucider. Par ailleurs, la situation sécuritaire est restée tendue lundi 25 mai dans plusieurs plusieurs localités des territoires des Massissi et Rutshuru au nord Kivu au lendemain des frappes aériennes attribuées à des drones militaires. Ces attaques ont notamment visé Rubaya et Rumangabo dans un contexte de combats intenses qui se poursuivent depuis plus d'une semaine dans la région. Ces nouvelles attaques interviennent plus d'un mois après le 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23 à Montreux en Suisse. Les deux parties s'étaient accordées sur deux points, à savoir la libération des détenus et le déploiement imminent sur le terrain des mécanismes de contrôle du cessez-le-feu. Nikes Kibelbel-Oka, vous avez souhaité nous parler de la crise sécuritaire au Kivu avec en arrière-plan la non-application des protocoles convenus en Suisse dans le cadre du processus de Doha. On vous écoute.
Oui, merci Guy. Si vous permettez, une pensée pieuse au colonel Mbankulu qui a été tué avec son capitaine, avec quelques militaires FARDC, dans une embuscade des ADF MTM.
Aujourd'hui.
Hier. Donc, ça
montre. Dans le Grand Nord.
Non, c'est dans la partie Isiro.
Isiro.
Oui. Ça montre quand même que ce phénomène est un phénomène.
Isiro. Donc, il est en train de s'étendre, le phénomène.
Le phénomène est en train de s'étendre avec option les trois frontières. Donc, les pays des trois frontières, c'est-à-dire Centrafrique, Sud-Soudan, RDC. Donc, il faut vraiment que les FARDC fassent le leur mieux pour contenir le phénomène. Mais malheureusement, hier, au cours d'une embuscade tendue par les ZADF MTM, un colonel, le colonel Mbankulu, un capitaine et, le garde-corps ont été tués. Donc, paix à leur âme. Alors, nous revenons à la crise sécuritaire au Kivu. En fait, on veut savoir si l'évolution du front, et vous l'avez souligné, le théâtre d'opération a connu des tensions. L'échange des prisonniers pose et posera toujours des problèmes. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le gouvernement accepte d'échanger les prisonniers, mais d'autre part, il se pose une question. Si ces prisonniers sont des Congolais, vous les échangez pour les retourner à Goma, c'est-à-dire vous consolidez la position des rebelles, c'est-à-dire vous consolidez la balkanisation. En principe, les prisonniers s'échangent entre États. S'ils sont des Rwandais, on peut accepter qu'il y ait échange. Mais il y a des prisonniers qui ont des dossiers très 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 complexe et bien documenté. Comment ça s'est fait? Donc ça pose sérieusement un problème. Et dans cette tergiversation, même ces mécanismes de contrôle, de cessez-le-feu, n'arrivent pas à freiner l'élan. Parce que le cessez-le-feu signifiait en réalité que le troupe qui s'affronte s'organise. Le temps stratégique de s'organiser pour reprendre. Parce que quand on signe un cessez-le-feu, on se pose la question. Après les cessez-le-feu, qu'est-ce qui arrive? Et si, au cas où les cessez-le-feu seraient violés ou ne seraient pas respectés, qu'est-ce qui va arriver? Et vous l'avez souligné, la preuve est là. Nous avons vu une démonstration avec des engins technologiques. Deux drones sur Kisangani, des frappes sur Rubaya. Cela montre effectivement que, au fait, le cessez-le-feu a servi à l'expérimentation des engins techniques ou technologiques de part et d'autre pour montrer les capacités des uns et des autres. Et donc, la guerre ne prend pas fin. Le terrain ou le front est plus ou moins stabilisé, mais maintenant, la guerre se passe au travers de la technologie. On ne déploie plus les troupes au sol, on envoie des drones pour frapper. Et donc, le cessez-le-feu a été une occasion, effectivement, pour se consolider, parce que la guerre qui se passe aujourd'hui, en réalité, ne respecte pas les fondamentaux d'une guerre. Une guerre, c'est pratiquement trois zones. Le front se passe sur trois zones. Vous avez une zone qu'on appelle pratiquement une zone à gauche, une zone à droite et une zone au centre. Mais nous avons combien de fronts? Nous avons le front Uvira, nous avons le front Masisi-Goma avec Rubaya, nous avons le front Lubero, Kanyabayonga Lubero, nous avons les fronts Goma Bukavu, nous avons autant de fronts qui fait que les théâtres des affrontements devient compliqué même pour définir la guerre. Alors, sur quel front il faut attaquer? Sur quel front il faut respecter les cessez-le-feu? C'est tout le problème. Les fronts Kisangani en principe n'existent pas. Or, il y a eu des drones sur Kisangani. Donc c'est un front concret qui déplace même les théâtres des affrontements. Donc c'est la complexité de cette guerre qui n'entre pas dans la définition d'une guerre classique, qui est pratiquement dans une guerre hybride. Et ça complique tout. Ce qui montre que la paix n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Il faut encore beaucoup d'efforts pour arriver à la paix.
Voilà, vous venez d'expliquer la complexité, n'est-ce pas, de la mise en œuvre des deux protocoles convenus à Montreux en Suisse, dans le cadre du processus des Doha, à savoir la libération des détenus ainsi que la surveillance du cessez-le-feu. Mais de l'avis de beaucoup d'experts, les deux protocoles sont les plus faciles à appliquer que les six autres qui sont toujours en négociation.
Ils peuvent se tromper. Bon, je leur donne le bénéfice du doute. Mais je te démontre, les prisonniers qui sont dans la partie gouvernementale, sont-ils des Congolais ou des étrangers? Et s'ils sont des Congolais, lorsqu'on le retourne à Goma, parce qu'il y a un autre volet dans l'accord qui dit qu'il faut finalement une participation, et si vous voulez, on doit déverser les rebelles, si tout se met en place, peut-être au cas par cas, certains devront entrer dans les institutions, dans l'armée, ainsi de suite. La conversion, la reconversion. Alors, quand vous prenez des prisonniers, vous les retournez à Goma, et après ils reviennent pour réinsérer les institutions, ça pose un problème. Au fait, en lisant sur papier, ça semble facile. Mais en réalité, c'est même les nerfs de la guerre. Parce que ces prisonniers ont donné des informations qui ont peut-être aidé, et puis on ne sait pas les sorts qu'on va leur réserver là-bas. Rappelez-vous que parmi les premiers prisonniers arrêtés, il y a un qui avait cité le nom de l'ancien président de la République, qui disait qu'il était le patron de M23. Aujourd'hui, si on les remettait, quelle garantie la rébellion donne que ce monsieur sera bien gardé, ne sera pas tué? Donc ce n'est pas un problème facile. Sur le papier, ça semble facile, mais la réalité est tout autre. Nous sommes vraiment en guerre, et la guerre prend tous les paramètres possibles, des agents doubles, il faut les protéger ou les éliminer, les infiltrer, ainsi de suite, dès lors qu'ils ont été reconnus comme infiltrés ou agents doubles et qu'ils ont vendu les informations.
Merci, Madame Anna Sylvestre. À quoi peut-on s'attendre si cette situation des statu quo perdure sur le terrain?
Malheureusement, s'il n'y a pas d'avancée de mise en œuvre de ces différents points, c'est l'impasse qui se poursuit, c'est-à-dire le conflit, comme le disait votre autre interlocuteur, effectivement, ça paraît simple sur le papier, mais ça paraît compliqué, c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que il y a d'abord les modalités, et ça se niche souvent, ce genre de négociation se niche souvent même dans les détails, c'est-à-dire une fois qu'on a établi des listes, par exemple, d'échanges de prisonniers, où est-ce qu'on peut les échanger, sous quelles modalités? Ensuite, où vont-ils, etc., etc. C'est-à-dire que souvent le blocage ne vient pas de la grande, de la grande ambition, mais des petits points de détail. Et je pense que la question derrière, malgré toute la complexité de tous ces points, la question derrière est-ce que chacun veut faire la paix, veut mener à la paix? Et au bout d'un moment, on est peut-être en droit d'en douter.
Vous pensez que les partis ne sont pas disposés à faire la paix?
Je pense que lorsqu'il y a des partis qui sont disposés à faire la paix, ils sont en capacité de faire la paix. Voilà, donc où ils cherchent à obtenir des choses qu'ils ne parviennent pas à obtenir maintenant, et donc ils renforcent le rapport de force, ou bien ils renforcent la pression sur le terrain. Mais ce à quoi on assiste me semble pas être le chemin vers la paix, mais plutôt, comme cela a été décrit, des armements souvent plus sophistiqués arrivent, de nouveaux armements apparaissent. Et comme d'habitude, ce sont les civils qui sont au milieu et qui trinquent.
Et quel profit les deux parties peuvent tirer de cette situation, Madame Anna Sylvestre?
Les profits, c'est du rapport de force, en fait, c'est de la politique. Pourquoi est-ce que tout un tas de pays dans le monde cherchent à s'étendre, à faire de l'expansionnisme? Ils vont chercher d'abord du renforcement éventuellement territorial, ils vont chercher des ressources, ils vont chercher et de la politique et de l'économie, comme toujours lorsqu'il y a des guerres.
Merci. Adrien Zawadi, à l'instar de l'épidémie d'Ebola, la guerre dans l'Est, la crise dans l'Est du pays, ce n'est pas une nouvelle crise, n'est-ce pas? Le pays vit dans cette situation depuis plus de 30 ans. On sait qu'on a toujours, n'est-ce pas, réglé ces problèmes chaque fois quand il y a un conflit armé qui a éclaté entre les belligérants. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, les partis n'arrivent pas à évoluer sur le terrain des négociations? Évidemment, les contextes ne sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y aurait difficulté, n'est-ce pas, d'appliquer ou de respecter certains engagements qui ont été pris par les deux partis?
Oui, votre question soulève le fond même du problème, qui veut que la guerre finisse? Que ça soit Kinshasa, que ça soit le Rwanda et tous ces supplétifs. Qui veut que la guerre finisse? Depuis 30 ans, on est dans la même situation. On est dans le même schéma. Bon, vous avez dit que l'accord de Doha semblait être facile. Mais moi, je pense que on a déjà signé plusieurs accords dans le passé. Et le dernier en date, qui était très facile, plus facile que celui signé à Doha, c'était l'accord de paix d'Addis Abeba. Mais pourquoi tous ces accords, depuis 30 ans, n'ont pas été appliqués et respectés et que la guerre continue? C'est-à-dire que le problème est ailleurs. Il y a une mauvaise foi. Quand il y a pression internationale, les gens font semblant de se mettre d'accord, de se convenir. Après, ils ne sont pas assez responsables pour assumer les décisions qu'ils prennent. Et deuxièmement, vous savez que le Rwanda qui agresse le pays a dans cette stratégie celui de talk and fight. C'est-à-dire que vous dialoguez, mais entre-temps, le Rwanda n'abandonne pas la guerre. Il l'a appliqué toutes les fois qu'il a attaqué le Congo. Il vous distrait que vous allez faire le dialogue. Et après le dialogue, ça répond. Et donc, est-ce que nous, on a tiré la leçon de tout ça? Troisièmement, je me pose, en me référant à l'intervention de Nikes, je me pose la question, quel est le profil des gens que nous envoyons dans les négociations qui vont signer des accords sans en apercevoir la difficulté de mise en application? C'est une question fondamentale. Parce que, comment vous pouvez signer, vous pouvez accepter que vous allez faire l'échange de prisonniers, sachant déjà qu'on peut faire l'échange de prisonniers qu'entre pays et pays. Deuxièmement, sachant que tous ces gens-là que vous appelez prisonniers sont vos citoyens congolais, vous allez les envoyer à Goma pourquoi? Vous voyez, ça pose des vrais problèmes, des profils de gens qui vont dans ces négociations-là et qui nous amènent des accords qui seront difficiles à appliquer. Donc, c'est une question difficile. Et nous, comme population de l'Est, nous sommes dans l'usure et nous savons que tous ces accords-là n'apporteront pas la paix. Et c'est pour cela que je soutiens la réponse de la dame qui a intervenu en disant qu'il faut un rapport de force.
Merci. Voilà. Merci. On prend une petite pause en écoutant Méditation des Rossi Chimpaka et on se retrouve juste après.
Mama boko, da wa ite ma.
C'était Méditation de Roxy Chimpaka dans l'orchestre Shockstar. Roxy Chimpaka est l'un des meilleurs guitaristes de la musique congolaise moderne. On rappelle que nous avons dans cette émission Nikes Kibelbel Oka, journaliste. Il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les Rébellions Rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Adrien Zawadi, il est président honoraire de la société civile du Sud Kivu. Et en ligne depuis la ville de Paris, capitale de la France, Madame Anna Silvestre, elle est journaliste au journal Le Monde et elle est chef du service Afrique. En dépit du boycott des députés de l'opposition, l'Assemblée nationale a approuvé mercredi 27 mai, sous réserve d'amendement, les conclusions du rapport de la proposition de la loi relative à l'organisation du référendum en RDC. Portée par le député Paul Gaspard Ngonanko, cette réforme vise à remplacer la loi de 2005 jugée dépassée afin de redéfinir le cadre juridique des consultations populaires. Déclarée recevable le 30 avril dernier, cette proposition de loi franchit une nouvelle étape. Selon le texte, la décision de convoquer un référendum revient exclusivement au président de la République par ordonnance présidentielle. Le scrutin est organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. En cas de dysfonctionnement majeur des institutions, les chefs de l'État peuvent mettre en place une commission nationale multidisciplinaire pour identifier les dispositions constitutionnelles inadaptées. Adrien Zawadi, vous avez souhaité nous parler justement de la controverse autour de la réforme constitutionnelle en RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup Guy. Dans une situation normale, un débat sur la révision constitutionnelle, c'est un débat acceptable. Et un débat normal qui fait appel au sens élevé de patriotisme et de nationalisme. Pas de fanatisme dans ce genre de débat parce que il s'agit de l'avenir et de l'existence du Congo et des Congolais. Donc, ça, c'est une obligation. Lorsqu'on veut parler de la révision de la Constitution, on ne peut pas fuir parce que c'est un débat intéressant. Néanmoins, le débat aujourd'hui, il pose plusieurs questions. La première question, c'est la question d'opportunité, le moment. Est-ce que c'est opportun de faire la révision, encore que on ne parle pas de la révision, mais toutes les communications que nous avons entendues parlent du changement. Or, la Constitution, dans son contenu, parle plutôt de la révision. Deuxième question soulevée par les débats aujourd'hui, c'est la motivation. Est-ce que c'est dans l'intérêt national que on voudrait mettre cette question sur la table, ou bien c'est une stratégie de conservation du pouvoir, parce que le moment est mal choisi. Qu'est-ce qui motiverait la population congolaise aujourd'hui à adhérer à cette démarche dans la mesure où on sent que ça ne rentre pas dans l'intérêt général du pays, mais ça relève d'une stratégie de conservation, je dirais même une stratégie inique de conservation du pouvoir. Donc c'est tout le débat. C'est vrai que la Constitution, comme toutes les autres lois, devrait avoir des limites de fond et de forme. Mais la grande question, c'est les moments choisis pour résoudre ces limites. Et nous, il faut que nous élaguions le fanatisme dans ces débats-là, parce que si nous mettons le fanatisme, et je crains que d'ailleurs on puisse tribaliser cette question ou régionaliser cette question, et alors là, nous serons à côté de la plaque. Alors que c'est une question qui nécessite qu'on l'affronte avec patriotisme et nationalisme.
Voilà, vous avez évoqué deux aspects, l'opportunité et la motivation. S'il faut parler de l'opportunité, à votre avis, les moments opportuns, c'est lesquels pour vous?
D'abord, vous savez que la Constitution, je crois, à l'article 219, fait des limites même à la révision constitutionnelle. Parce que il parle de l'état de siège, l'état d'urgence et l'état de guerre. Notre pays est en état au Nord Kivu et à Ituri. Et donc, est-ce que c'est opportun? Et la ville de Goma, Bukavu, est sous occupation étrangère. Est-ce que c'est opportun de faire une révision constitutionnelle? Déjà, sur les principes, non. Donc, je crois que c'est inopportun pour l'instant, au regard du contexte, de faire ces changements ou ces révisions de la Constitution.
Merci. Madame Anna Sylvestre, de Paris, en France, d'où vous intervenez, quel regard avez-vous, n'est-ce pas, de ces débats sur la réforme constitutionnelle en RDC?
Ça me semble normal qu'il y ait un débat autour de cette réforme, parce que quand on touche au texte de loi le plus important du pays, c'est forcément très très sensible. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut jamais y toucher. Bien sûr, les pays, le monde, et les sociétés évoluent, donc il faut faire évoluer les textes. Mais la question, comme cela a bien été dit avant moi, la question c'est dans quel but. Et par ailleurs, je suis d'accord, hein, est-ce le moment opportun? Quand on sait qu'il y a une guerre importante dans le pays, est-ce le moment pour changer les textes? Bon, ça, on peut s'interroger, et peut-être que des juristes ou même plus des philosophes pourraient s'interroger là-dessus. Mais le dans quel but, on commence à avoir des réponses, puisque à la fois les proches du président et le président lui-même, Félix Tshisekedi, a apporté en partie la réponse. Et une des réponses qu'il a apportées à l'ambition de ces changements, c'est de se maintenir au pouvoir. De se maintenir au pouvoir, si je comprends bien, par deux façons. La première serait de ne pas organiser le scrutin tant que la paix ne sera pas trouvée à l'est du pays. Alors, bon, je comprends la complexité éventuellement d'organiser un scrutin, etc., mais certains observateurs ont souligné que on peut se demander s'il n'a pas tout intérêt à faire traîner la guerre pour pouvoir se maintenir au pouvoir. En tout cas, ça peut avoir des effets pervers, le fait de lier le fait d'organiser des élections à l'état de guerre. Donc ça, c'est d'une part. En tout cas, la conséquence à court terme serait un maintien au pouvoir au-delà du temps prévu pour son mandat. Et sinon, en cas d'organisation des élections, qu'il ait le droit, ce qui n'est pas prévu pour l'instant par les textes, de faire un troisième mandat. Félix Tshisekedi ne serait pas le premier hein, des chefs d'État du continent à faire ceci. Évidemment, il y a de très nombreux chefs d'État qui ont, à leur tour, changé leur constitution. Et à chaque fois, c'est pour se maintenir au pouvoir. Voilà, je pense qu'il est sain qu'il y ait un débat. Et que par ailleurs, c'est évidemment une entreprise politique risquée, parce qu'on a vu dans certains pays, parfois, ce genre d'initiative va créer une très forte opposition, et notamment une opposition dans la rue. Donc voilà, de populations qui ne sont pas d'accord, puisque quand même les textes sont quand même là normalement pour faire respecter le choix du peuple et le choix de la majorité.
Merci, Nikes Kibel-Oka. Nous allons finir cette émission avec vous. Hein. Vous avez suivi Madame Anna Sylvestre qui a évoqué cette possibilité d'avoir une opposition dans la rue. Et là, l'opposition a même annoncé des actions de terrain pour les mercredis prochains, donc les 3 juin. Et du côté de la majorité au pouvoir, il y a aussi des actions, n'est-ce pas, qui sont prévues pour essayer d'empêcher les actions de l'opposition. À votre avis, quelles pourraient être les marges de manœuvre des camps, les camps de la majorité au pouvoir et les camps de l'opposition?
Oui, merci Guy. Je ne vais pas entrer dans ces débats, mais je souligne une chose, que l'opposition n'a pas très bien fait d'annoncer la ville morte le 3 juin. Pourquoi? Parce que le 4 juin, les élèves des 6e primaire vont faire les examens, le concours de passage au secondaire. Et donc, psychologiquement, pédagogiquement, on ne peut pas mettre les enfants dans une situation telle qu'il y a inhibition. Et donc, selon moi, la stratégie ou les stratèges de l'opposition n'ont pas lu l'évolution scolaire chez nous. Donc, on aurait pu mettre les 10, les 15 ou les 30, mais le 3 juin, alors que le 4 juin, les élèves des 6e primaire vont faire l'examen, ça c'est un mauvais choix. Je ferme cette parenthèse-là, mais je pose la question, je dis, pourquoi nous les Congolais, nous fuyons nos responsabilités? la Constitution a été violée déjà avec la naissance de M23. Parce qu'il est dit dans la Constitution qu'il ne faut plus accéder au pouvoir par la voie des armes. Maintenant, l'opportunité. Dites-moi, Guy, quel est le moment opportun où on peut discuter de la Constitution? Tous les moments sont opportuns.
Même pendant l'état de siège, comme c'est le cas pour le Nord Kivu et l'Ituri?
Parce qu'il y a un problème réel. Nous ne prenons pas la dimension temps. Dans 2 ans, le mandat du président Tshisekedi s'arrête. Si ça arrête pendant la guerre, nous faisons quoi? Parce que dans tout ce que nous faisons, il faut mettre la dimension temps. Et quand la dimension temps joue contre nous, alors à ce moment-là, ça ne va pas. Parce que dans 2 ans, le président Tshisekedi a fait un mandat. Et si la guerre continue dans 2 ans, il vient, il laisse le pouvoir, il s'en va. Donc, il faut réfléchir à fond. Et je pense que le débat doit être ouvert, pluriel, et pour qu'en dernière minute, on prenne la sève qu'il faut pour sauver le pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Anna Silvestre, Monsieur Nikes Kibel Ben Oka et Monsieur Adrien Zawadi. Merci aussi à Sylvain Bangouere qui était à la technique avec la participation de Dieudonné Ngassa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Mouvaro, une autre composition de Claude Nsumbu Makola dit Yalengos, une façon pour nous de continuer à lui rendre hommage à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, et on se retrouve le samedi prochain.
Thank you.